Alors, je vais demander donc tout de suite un duo de Bruno. Bruno Vélas et Bruno Dubois de me rejoindre. Bruno Dubois, cofondateur de la Fondation pour la recherche Alzheimer, neurologue à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière et membre de l'Académie de médecine. Bruno Vélas, vous le connaissez sûrement, responsable du Gérontopôle CHU de Toulouse, pionnier de la prévention des fragilités. Hein, je parlais des spécialités du bien vieillir. Vous y travaillez, vous, Bruno Vélas, en coordonnateur avec les équipes de l'OMS. On a eu l'occasion d'en parler régulièrement. Moi, je travaille au magazine Notre Temps, donc avec lequel on soutient les projets de Bruno Vélas. Vous travaillez particulièrement sur les vieillissements et la fragilité, et vous supervisez également les travaux de recherche sur cette maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir des derniers mois et qu'est-ce qu'on peut attendre des projets de recherche? Je vous passe le micro. Et Bruno, vous allez en avoir un juste devant vous également de micro.
Alors, merci. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que quant aux États-Unis, on parle de la recherche sur la maladie d'Alzheimer en France, ils parlent des deux Bruno. Bruno Dubois à la Salpêtrière, qui est neurologue, et nous à Toulouse, qui venons de la gérontologie, c'est-à-dire du vieillissement. Alors, je vais vous parler de trois points. Un, résumer rapidement où on en est concernant la recherche de médicaments dans la maladie d'Alzheimer. Deuxièmement, vous parler du programme de repérage du déclin des fonctions, mais de façon intégrée, qu'a mis en place l'OMS et sur lequel on travaille à la municipalité de Toulouse. Il y a 25 000 personnes qui sont suivies de façon digitale maintenant. Troisième point sur lequel on va discuter, c'est du projet d'IHU sur le vieillissement en santé qu'on met en place sur Toulouse. Alors tout d'abord, la recherche thérapeutique sur la maladie d'Alzheimer. Il faut en dire un mot parce que souvent les médias ont parlé de ce qui était négatif sans voir les avancées qu'on a fait pas à pas. On a commencé il y a à peu près 30 ans et on a ciblé surtout des formes déjà avancées de maladie d'Alzheimer. On a réalisé que c'était trop tard. On est allé vers des formes qui étaient plus précoces, plus débutantes. Et ça, c'est ce qu'on a fait il y a 20 ans. Mais là, on n'avait pas de biomarqueurs. Donc, comme c'était des formes précoces et qu'il n'y avait pas de biomarqueurs, 30% des patients n'avaient pas de maladie d'Alzheimer, ou la vraie maladie d'Alzheimer qu'on veut traiter. Ce qui peut expliquer que les essais étaient négatifs. Donc, depuis une dizaine d'années, on a pu avoir la mise au point de biomarqueurs de maladie d'Alzheimer, ce qui nous permet de faire un diagnostic de précision et là de cibler les thérapeutiques. Donc on a travaillé avec des anticorps monoclonaux qui visent à faire disparaître ces lésions amyloïdes, on en reparlera avec Bruno Dubois, qui jouent un rôle important dans la pathologie de type Alzheimer. Et on a fait des premiers essais qui ont été négatifs parce que les doses étaient trop faibles, très vraisemblablement, et les anticorps monoclonaux n'étaient peut-être pas assez spécifiques. Ensuite, on a recommencé avec d'autres anticorps monoclonaux qui étaient plus spécifiques et avec des doses plus importantes. Et là, on s'est aperçu, dans une première essai dont on a parlé l'an dernier avec l'aducanumab, qu'il semblait qu'il y ait une efficacité dans les fortes doses. Donc maintenant, il y a les résultats qui ont été annoncés dans la presse, c'est-à-dire un communiqué de presse. Les résultats précis vont être publiés sans doute avant la fin de l'année et vont être présentés au congrès du CITAD à San Francisco. Et avec le lecanemab, qui est un anticorps monoclonal, on a pu avoir un résultat positif sur le critère principal, qui est un critère composite qui explore à la fois la cognition et les capacités, et sur tous les critères secondaires. Donc ça veut dire qu'on va avancer. Alors, ça ne va sûrement pas être un traitement qui va guérir contre la maladie d'Alzheimer, mais ça devrait ralentir l'évolution d'à peu près 30%. Si après on a un autre médicament qui ralentit à peu près de 30% à nouveau, petit à petit, on va avoir des avancées importantes. Ce qui est important aussi, c'est de voir si on traite plus tôt. Peut-être que si on traite très tôt et qu'on continue le traitement longtemps, on risque d'avoir un effet qui risque de se pérenniser. Bon, donc une avancée réelle, mais vraisemblablement pas la guérison contre la maladie d'Alzheimer. Le second point dont je voulais vous parler, c'est que pour ça, il faut faire un diagnostic précoce. Et pour faire un diagnostic précoce, il faut passer d'une médecine qui visait simplement à faire des diagnostics et des traitements à une médecine qui vise à maintenir les fonctions. Pour l'OMS, vieillir en santé, ce n'est pas ne pas avoir de maladie. On a des maladies à tous les âges de la vie. Mais vieillir en santé, c'est garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Vous avez telle personne qui a 70 ans, un commerce, et veut continuer à s'en occuper encore un peu pour le remettre à ses enfants, qu'elle puisse le faire. Vous avez quelqu'un qui a 80 ans, qui veut conduire sa voiture pour aller voir sa fille qui habite de l'autre côté de la France, qu'il puisse continuer à le faire. Donc, vieillir en santé, c'est ça. Donc, ça nous amène à demander à la personne qu'est-ce qu'elle veut faire. Et nous, médecins, on va réfléchir comment est-ce qu'on peut l'aider à continuer à faire ça. Et l'OMS a fait le point de la littérature, a réuni un certain nombre d'experts. Ils ont retrouvé 6 fonctions qu'il faut maintenir, que sont la vue, l'audition, la mémoire, le bien-être psychique, la mobilité et la nutrition. Et a été développée une échelle qui est très simple, qui permet d'évaluer ces quelques fonctions. Pour la mémoire, on va regarder l'orientation dans le temps. On va regarder la mémoire immédiate et en différé, avec des questions très simples. Pour la mobilité, on regarde si le sujet est capable de se lever 5 fois d'une chaise. Vous pourrez vous entraîner à le faire. 5 fois d'une chaise, sans vous aider des bras, en moins de 14 secondes. En moins de 14 secondes. Alors, la difficulté, c'est que si vous le faites, par exemple, en 7 secondes, ce qui est bien, mais il faut que l'année prochaine, vous mettiez toujours 7 secondes. Et dans 10 ans, c'est possible que vous mettiez toujours 7 secondes. Et dans 20 ans, essayez de ne pas arriver à 14. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut commencer tôt à s'entraîner et à connaître ses fonctions et les garder. Il y a une question, il y a deux questions qui ont été retenues pour l'humeur, c'est important. On demande aux gens, est-ce que vous vous sentez déprimé et sans espoir? Et est-ce que vous avez perdu l'envie de faire ce que vous aimiez faire? Et bien, 30% des personnes répondent oui. Comment est-ce qu'on peut vieillir en santé si on se sent déprimé et sans espoir et si on a perdu l'envie de faire ce qu'on aimait faire? Donc là, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi. Vous avez certaines qui seront vraiment déprimées, on va donner un antidépresseur, mais vous en avez d'autres qui, c'est peut-être le sentiment de solitude, d'où l'importance de venir à des conférences comme celle-là et le fait de participer à des activités. Donc, il y a des moyens sur lesquels on peut agir qui sont importants. Alors, on a développé une application qui s'appelle, avec l'OMS, ICOP Monitor, ICOPE. Il suffit de taper sur Internet ou sur votre téléphone portable. On peut le télécharger. Ça se fait gratuitement. Et on va vous demander l'autorisation d'être suivi, par exemple, nous, ici en Occitanie, c'est le centre hospitalier de Toulouse, de sorte qu'on a des infirmières de télésuivi qui surveillent. Et si quelqu'un commence à avoir une anomalie, on va vite le prévenir et prévenir son médecin traitant. Vous voyez, le vieillissement, c'est un peu un escalier. On est en haut de l'escalier. Notre système de santé, il attend qu'on ait dégringolé l'escalier pour aller aux urgences, en gériatrie et en EHPAD. Ce qu'on fait avec ce programme qui est recommandé par l'OMS, c'est de mesurer nos fonctions et chaque fois qu'on descend une marche, d'être alerté vite pour pouvoir la remonter. Et ça, c'est possible. Et on a des recommandations de l'OMS, il faut le faire. Donc c'est ça, ce programme ICOP. ICOP, ça veut dire des soins intégrés, c'est-à-dire étudier toutes ces fonctions en même temps. Parce que vous voyez, vous allez mesurer la mémoire, ce qui est important. Mais le reste, la vue, l'audition, la nutrition, le bien-être psychique, la mobilité, c'est ce qui est important pour garder une bonne réserve cérébrale. Donc, si on veut prévenir la maladie d'Alzheimer, il faut garder toutes ces réserves. Après, s'il y a un déclin qui devient pathologique ou qui devient plus important, on pourra utiliser des applications plus spécifiques pour la mémoire. Mais il faut commencer et garder cette application globale. Ça, c'est le programme ICOP. Et un mot du programme de l'IHU. Les IHU sont célèbres maintenant avec l'IHU de Marseille. Il y a un IHU d'une très grande notoriété sur les neurosciences dans lequel travaille Bruno Dubois. Il n'y a pas d'IHU sur le vieillissement. Il y a actuellement 7 IHU qui ont été financés. Il y en a 6 qui vont être créés. Et les hôpitaux de Toulouse, 4e CHU de France, avec l'Université Paul Sabatier et l'Université de Toulouse, 2e université de France, et les centres INSERM et CNRS autour de Toulouse sont partis sur le vieillissement en bonne santé, autour du programme ICOP, afin de connaître la biologie. Et je vais dire, et c'est le dernier élément dans lequel je vais parler, notre âge, quand on vous demande votre âge, c'est l'âge chronologique. Et l'âge, on dit tous que c'est le principal facteur de pathologie liée au vieillissement. Plus on vieillit, plus on a de risques d'avoir des pathologies qui vont arriver en cascade au bout d'un certain âge. Mais on a dit longtemps, l'âge, c'est un facteur qui est non modifiable. Or, on a confondu l'âge avec notre âge chronologique. L'âge chronologique, quelqu'un qui a 50 ans, il a passé 50 ans sur Terre. Mais ça n'explore pas notre âge biologique. Et l'âge biologique, par les progrès de la recherche biologique, on va pouvoir bientôt le mesurer. Et c'est sans doute cet âge biologique qui va peut-être entraîner les dépôts amyloïdes, qui va entraîner un dysfonctionnement au niveau du cerveau, qui va entraîner des troubles de la mémoire et la maladie d'Alzheimer. Mais pendant longtemps dans la médecine, on s'est intéressé aux signes cliniques, à la physiopathologie, mais on a oublié l'âge biologique qu'on espère pouvoir mesurer et sur lequel on pourra agir dans l'avenir pour retarder les pathologies liées au vieillissement. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire.
Merci beaucoup. Vous allez pouvoir passer votre micro à votre voisin. Professeur Dubois, racontez-nous ce que vous m'avez confié dans le train, parce que moi j'ai eu un petit peu le privilège tout à l'heure, j'ai voyagé avec le professeur Bruno Dubois qui m'a tout raconté de la nouvelle étude qui intéresse énormément les personnes dont un proche est touché par la maladie d'Alzheimer. Racontez-nous un petit peu ce que nous promet cette étude et surtout quelle fenêtre elle ouvre en termes de recherche.
Je vais le faire. Je vais deux choses. D'abord, je vais surtout illustrer ce qu'a dit si bien mon ami de 30 ans, Bruno. J'ai quelques images qui illustrent ce que tu as dit sur les traitements. Puis la deuxième chose, je voudrais profiter de cette occasion pour te rappeler, mon cher Bruno, que tu es très associé à cette Fondation pour recherche sur Alzheimer, c'était l'IFRAD. Tu te rappelles qui a été créé il y a plus de 20 ans, près de 20 ans. Et je n'oublie pas qu'au tout début, tu étais très associé, d'ailleurs tu l'es toujours, mais on avait fait, tu te rappelles, ce réseau des centres avec toi, avec Jacques, avec Michel Poncet, Jacques Touchon, etc. Enfin, c'était une équipe très, très agréable, très sympathique. Et comme il y a eu après le plan Alzheimer, ça a un petit peu éclaté ce groupe qui était un groupe qui cherchait à trouver des moyens à une époque où il n'y avait pas encore de moyens. Et puis finalement, avec le plan Alzheimer du président Sarkozy, les moyens sont arrivés, il y avait plus vraiment la nécessité de maintenir ce réseau. Mais enfin, c'est un hommage que je voudrais rendre parce que tu avais, dès le début, choisi de nous accompagner dans cette aventure. Voilà, l'IFRAD est devenu l'AFRA, et donc nous sommes là pour petit à petit établir ces entretiens dans différentes villes de France et solliciter de votre part un intérêt autour de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Alors, vous avez là un livre que j'ai commis il y a 2 ans. Et ce livre, le titre de ce livre, c'était « La maladie du siècle, pourquoi ?». Et je pense que c'est important d'expliquer pourquoi c'était la maladie du siècle. Entre-temps, il y a eu le Covid, donc ça change un petit peu la perspective. Mais à l'époque, c'était, et je pense que ça va redevenir la maladie du siècle, tout simplement parce que l'allongement de la vie fait que, évidemment, ça va devenir un défi pour nos sociétés. Simplement, pour rappel, au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'espérance de vie était de 40 ans. Aujourd'hui, une petite fille qui naît aujourd'hui, si vous avez une petite fille qui naît aujourd'hui, son espérance de vie sera de 90 ans. Or, à 90 ans, eh bien, nous savons qu'il y a 40% de risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons des enfants qui vont avoir près d'une chance sur deux d'arriver à l'âge où la maladie devient malheureusement une réalité. Donc c'est une source de croissance et de développement, mais le risque, bien sûr, c'est la mise en tension du système de protection sociale. Et je pense que la discussion que nous avons aujourd'hui autour de l'âge de la retraite n'est pas sans importance par rapport à cette problématique. Je crois, Bruno, d'ailleurs, que tu as des idées précises sur cette problématique de l'âge de la retraite. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous montrer, pour vous montrer combien c'est une réalité et combien c'est important, vous avez sur cette diapositive, en couleur on va dire marron ou rouge, les pays dont le pourcentage de la population âgée de 60 ans, de plus de 60 ans, donc dans ce pourcentage est supérieur à 20%. D'accord ? Donc là, vous avez par exemple 20% des pays, vous voyez ici, je ne sais pas comment on fait la flèche, voilà. Là, par exemple, vous avez l'Amérique, toute l'Europe, le Japon et l'Australie. C'est-à-dire que dans ces pays, vous avez en 2012... Donc, vous avez compris, plus de 20% de la population qui est âgée de plus de 60 ans. Que va-t-il se passer en 2050 ? Eh bien, voilà. Vous voyez que l'ensemble de la population mondiale sera dans cette situation. Donc, dans 30 ans, la plupart des pays auront leur population âgée de plus de 60 ans, sauf, Et la différence, est quand même, et cette notion est quand même est importante à noter, sauf l'Afrique et l'Inde notamment. Voilà, donc oui, ça va être un vrai, vrai problème, et c'est pour ça que ça va devenir, à l'évidence, la maladie du siècle. Et il faut donc essayer de réfléchir au traitement de cette maladie. Alors, c'est un petit rappel pour que vous compreniez bien les enjeux. On parle de traitement symptomatique quand on cherche à traiter le symptôme. Par exemple, si vous avez une dent douloureuse, on peut évidemment mettre un traitement symptomatique contre la douleur, mais on ne soigne pas la carie, on ne soigne pas la dent malade, on soigne simplement le symptôme. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de tourner non plus vers un traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer, et d'ailleurs on n'y est pas arrivé, mais d'aller plutôt vers le traitement de la cause de la maladie, c'est-à-dire essayer de repérer les lésions de la maladie et traiter les lésions de cette maladie. Alors c'est vers ça que nous nous dirigeons aujourd'hui. Malheureusement, et je voudrais juste vous montrer les échecs thérapeutiques, avec un S à thérapeutique, les très nombreux échecs qui ont été la réalité de ces dernières années, puisque vous avez, je crois, plus de 400 essais qui ont été, 413 essais qui ont été réalisés depuis l'an 2000. Et bien sur les 413, vous n'avez aucun, jusqu'à il y a quelques mois, aucun qui avait montré quelque effet sur les symptômes des patients étudiés dans ces études. Alors, il faut dire, vous voyez, enfin, que depuis un an, on peut dire, il y a du nouveau, puisque nous avons deux études qui viennent de montrer, des études de phase 3, c'est-à-dire des études qui sont importantes dans le développement. Ce sont celles qui sont regardé par les agences d'enregistrement. Eh bien, il y a une étude, il y a un an, ou il y a deux ans, qui a été positive, qui a été réalisée avec un médicament qui s'appelle l'aducanumab. Et puis, plus récemment, il y a quelques semaines, vous avez peut-être entendu parler de ce résultat qui, pour nous, est très, très important. Il y a une nouvelle étude de phase 3 avec un nouveau médicament qui s'appelle le lecanumab, qui, lui aussi, a montré des résultats positifs. Alors, il faut insister et dire que l'amplitude de l'effet reste modérée, reste modeste, mais malgré tout, c'est extrêmement important pour nous parce que ça va, c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que ça valide toutes les hypothèses qui sous-tendaient la démarche scientifique, était de dire on va traiter les lésions amyloïdes, ça doit avoir un effet sur la protéine tau et ça doit pouvoir corriger les symptômes. C'est ce qu'on appelle la cascade amyloïde. Et donc, ces résultats positifs valident la cascade amyloïde, même si l'effet n'est pas très important, il va dans la bonne direction et ça veut dire que nous ne nous sommes probablement pas trompés en choisissant cette cible. Il y a des effets secondaires qui ne sont pas rares et il va y avoir des discussions sur la base de ces résultats pour savoir si les agences autorisent la mise sur le marché parce qu'il n'y a qu'une seule étude de phase 3 et qu'il va falloir convaincre les autorités que ce médicament, même si l'effet est modeste, est quand même un médicament qui est à retenir et à autoriser.
Est-ce que vous pouvez juste donner un petit détail sur les effets secondaires? Parce que c'est toujours des questions qu'on se pose, ce traitement va me faire du bien, mais est-ce que je vais en payer le prix fort?
Alors, les effets secondaires sont importants, c'est principalement ce qu'on appelle un œdème cérébral, un œdème localisé, qui est la conséquence de l'effet thérapeutique. Le fait que ces médicaments agissent a pour conséquence d'entraîner une sorte de, on appelle ça de clearance, c'est-à-dire de lavage, de nettoyage des lésions, et ces lésions vont créer des petites lésions inflammatoires sur les vaisseaux qui sont chargés de les récupérer, et ça va créer une sorte d'œdème, d'encrassage du système d'évacuation, un peu comme un évier qui se bouche, et vous avez une stase de liquide, et ça crée un œdème. Donc cet œdème est dans une certaine mesure la conséquence de l'effet thérapeutique. Et au départ, on prenait l'œdème comme la preuve d'une efficacité du traitement, et effectivement, dans les zones où il y a de l'œdème, on voit une diminution de la concentration des lésions, mais peut-être que le professeur Pialou nous en parlera plus tout à l'heure. Donc si vous voulez, cet œdème est un peu le prix à payer du traitement qui marche trop bien. Raison pour laquelle on cherche à aller à la dose minimale, celle qui est juste au-dessous de celle qui va produire l'œdème, car cette dose, évidemment, sera intéressante, puisqu'elle sera probablement très proche de l'effet thérapeutique maximal, mais pas suffisante pour créer cet effet secondaire. Alors, La deuxième nouvelle que je trouve très, très, très intéressante, c'est que ces médicaments, les trois derniers médicaments qui sont à l'étude dans cette maladie, on montre tous le même effet, c'est-à-dire qu'ils diminuent de façon considérable les lésions dans le cerveau chez les patients traités. Il faut savoir qu'on peut mesurer les lésions, je vais vous le montrer avec des marqueurs, on peut mesurer les lésions dans le cerveau de nos patients lorsqu'ils sont impliqués dans une étude. Donc au départ, on mesure les concentrations, on les traite pendant un an et demi, et à un an et demi, on regarde de nouveau s'il y a des lésions et quelle concentration des lésions persiste dans le cerveau. Et on se rend compte que finalement, un an et demi après, il y a jusqu'à 80% de nettoyage des lésions amyloïdes dans le cerveau des patients. C'est un résultat qui est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'on arrive à nettoyer le cerveau des lésions, d'une partie des lésions, en tout cas les lésions amyloïdes, chez les patients traités. Alors, je pense que ce point est un point qui va justifier les discussions qu'on va avoir, et je vais rapidement les aborder, simplement pour vous rappeler ce qu'a dit tout à l'heure Bruno Velas, on peut mesurer maintenant les lésions dans le cerveau des patients, ou on peut les mesurer aussi par une ponction lombaire dans le liquide céphalo-rachidien. Je passe. Et même, on est en train de travailler, nous, et probablement vous aussi, sur les marqueurs sanguins, c'est-à-dire nous avons des machines très sophistiquées qui nous permettent de repérer à des concentrations vraiment infinitésimales les modifications cérébrales chez les patients malades, et on arrive à avoir une fenêtre sanguine qui nous donne des informations sur les concentrations des lésions. Et vous avez par exemple un résultat qui n'est pas publié, qui est un résultat qui est en cours de confirmation tellement il est spectaculaire, mais vous avez par exemple dans le plasma, ici, les concentrations d'une protéine Tau, je dis bien c'est dans le sang, et vous voyez qu'on arrive à séparer totalement deux populations, une population de patients atteints de la maladie d'Alzheimer par rapport à celle de patients qui avaient une maladie dégénérative mais qui n'était pas une maladie d'Alzheimer. Donc ces résultats sont très spectaculaires, ils sont à oublier parce qu'il y a probablement des biais de population qui font qu'on a des populations extrêmement bien phénotypées, très très particulières, et on peut mettre en évidence des résultats très spectaculaires comme ça. Dans la vraie vie, ça n'est pas le cas, et les données qu'on a dans la littérature ne confirment pas des séparations aussi tranchées. Donc ça veut dire qu'il va falloir être très très prudent avec ces résultats-là, parce que il n'est pas question de dire je vais faire un prélèvement sanguin et savoir si j'ai la maladie d'Alzheimer. Vous comprenez bien, ce sont des véritables bombes. Il va falloir confirmer, il va falloir valider cela, il va falloir inscrire ces recherches dans des schémas de prise en charge, dans des annonces très particulières. Il faut être extrêmement prudent avec ça, mais c'est simplement une indication que je voulais vous donner, qu'aujourd'hui, on est sur le point d'avoir la possibilité, probablement, de ce qu'on appelle prescreener, c'est-à-dire de repérer des gens à risque sur la base d'un prélèvement sanguin. C'est par là. Alors, la deuxième information, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, la deuxième information très importante à garder en mémoire, c'est que on sait aujourd'hui que les lésions de la maladie précèdent la survenue des symptômes, précèdent la survenue de plusieurs années, ce qui fait que, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, on pourrait donc, dans l'avenir, repérer des gens à risque de développer la maladie sur le fait qu'ils ont les lésions, puisque nous avons, je viens de vous le montrer, nous avons aujourd'hui les moyens de visualiser les lésions. C'est-à-dire que je peux très bien aller ce soir chez mon ami Bruno, et il peut très bien peut-être faire l'examen du le PET scan, ce qu'on appelle le PET scan, ou la ponction lombaire, ça, je serais peut-être moins emballé. Mais bon, et à l'issue de cet examen, il me dira, eh bien, tu as les lésions, Bruno, je t'apprends que tu as les lésions de la maladie. Ce qui ne veut pas dire pour autant que j'ai la maladie, que je l'aurai ou que je l'ai déjà. Mais simplement, il y a peut-être la possibilité aujourd'hui de repérer des gens âgés, cognitivement normaux, qui n'ont aucun trouble, mais qui ont les lésions, donc ils sont à risque de développer la maladie. Et si vous avez bien en mémoire l'image que je vous ai montrée sur l'effet de ces médicaments sur les lésions cérébrales, évidemment, de vous-même, vous vous dites, mais c'est bien sûr, on va donc pouvoir traiter des gens normaux avec ces médicaments qui nettoient les lésions. Ils ont des lésions, ils sont normaux, on leur donne le médicament et on les empêche de rentrer dans la maladie. Mais voilà, et c'est l'avenir, sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Premièrement, vous avez compris qu'il y a des réserves sur la valeur diagnostique des lésions, notamment pour les prélèvements sanguins. La deuxième raison, c'est que le fait d'avoir des lésions ne certifie pas qu'on va développer la maladie. Vous me suivez bien ? Le fait qu'on montre des lésions, par exemple, si j'ai les lésions, si Bruno me montre que j'ai des lésions, c'est pas pour autant, je vais lui dire oui, mais d'accord, j'ai peut-être les lésions, mais c'est pas pour autant que je vais développer la maladie. Prouve-le-moi. Et nous sommes en train, nous, de travailler sur cette donnée-là. Et je vous montre, par exemple, une cohorte que nous suivons maintenant depuis 7 ans, de patients qui sont dans une étude qu'on appelle l'étude INSIGHT. Eh bien, ce sont des gens qui étaient âgés au départ. Ils avaient 76 ans en moyenne quand ils sont rentrés dans l'étude. On a cherché la présence de lésions dans le cerveau de ces gens qui étaient parfaitement normaux, comme vous et moi. 28% d'entre eux avaient effectivement les lésions de la maladie d'Alzheimer. Ça fait 88 sur le groupe. Ils étaient 320 au départ. Donc, je résume, 88 avaient des lésions. Ils ont 76 ans dans l'ensemble. On les suit pendant 7 ans. 7 ans après, qu'est-ce qu'on voit ? Sur les 88 qui ont les lésions, seuls 16, vous l'avez ici, ont développé la maladie d'Alzheimer. Ce qui veut dire qu'il y en a 72 qui avaient des lésions au départ, qui ont maintenant 76 et 7, 83 ans, et qui n'ont toujours pas la maladie. Peut-être qu'ils ne la développeront jamais. Peut-être qu'ils ne vieilliront pas assez loin pour la développer. Ou peut-être, tout simplement, qu'il ne suffit pas d'avoir des lésions pour développer la maladie. Ces lésions sont nécessaires, ça ne fait pas de doute, mais ce n'est pas pour autant qu'elles soient suffisantes. Et une explication possible, et je livre ça à votre réflexion, ce n'est pas une preuve, mais c'est une indication que je trouve extrêmement intéressante, c'est que vous avez, il faut que je vous explique cette diapo, elle est importante. Vous avez ici les résultats de l'électroencéphalogramme de la moyenne de tous les patients, de tous les sujets, pardon, qui sont négatifs. Ils sont négatifs, ils n'avaient pas les lésions dans le cerveau. Ils n'ont pas de lésions dans le cerveau. Et tous les ans, sur les... Vous voyez, il y en avait 320 moins 88, ça doit faire, je sais pas, 250, admettons. Eh bien, ces 250, on leur a fait tous les ans un EEG. Et vous voyez qu'il n'y a pas de modification sur 3 ans de l'EEG. Et là, vous avez les patients qui sont toujours asymptomatiques, ils sont pareils sur le plan de la cognition, ils n'ont pas de troubles, sauf qu'eux ont les lésions. Et que voit-on ? On voit qu'il y a une modification de l'activité électrique et corticale du cerveau au fur et à mesure de l'évolution, comme s'il y avait des mécanismes de compensation, comme si le cerveau était capable de modifier sa connectivité, la connectivité interne, pour maintenir une fonction alors même qu'il y a une altération de la structure. Voilà, ce sont des données qui sont intéressantes, qui montrent que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe, raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, le fait de démontrer qu'il y a des lésions ne suffira pas à prédire que l'on va développer la maladie. Il y a donc ce que j'ai appelé, moi, les capacités de résilience. Pardon, c'est là. La capacité de résilience cérébrale. Donc ça veut dire que c'est une somme algébrique, ça va être un algorithme complexe dans lequel, bien sûr, les lésions joueront leur rôle, mais il y aura d'autres facteurs qu'il va falloir identifier pour prédire cette... Et voilà, c'est ma dernière diapo. Il va falloir, si vous voulez, dans l'avenir, mettre en place des cohortes, ce que va faire Bruno dans son IHU, ce que je vais faire moi aussi à la Salpêtrière, dans lequel, vous voyez, on va prendre des sujets... patients au tout début, ou sujets à risque, ou sujets contrôle, et puis on va, à partir de là, faire des cohortes. À partir de ces cohortes, on va faire des bases de données, et à partir de ces bases de données, on va pouvoir, je dirais, élaborer des algorithmes de prédiction. Et ces algorithmes de prédiction nous serviront après, dans ce que j'appelle les centres de prévention de la démence, nous serviront pour, sur un sujet donné qui viendra nous voir cette fois-ci, dans la vie réelle, en consultation, et qui nous dira, mais est-ce que j'ai le risque de développer la maladie ? Vous avez 70 ans, votre mère avait la maladie, votre père ne l'avait pas, le grand-père de votre mère ne l'avait pas, on va vous doser la peau E4, etc. On va faire un certain nombre de recherches, et sur la base de l'algorithme que l'on aura identifié à partir des cohortes, on pourra définir un risque, on dira à ce monsieur, cette dame, ben voilà, vous avez 43 1% de chance d'avoir développé la maladie dans 15 ans, ou vous avez 95% de risque de la développer dans 6 mois. Et dans ce cas-là, on pourra évidemment proposer des interventions ciblées qui seront soit, dans tous les cas, les facteurs de risque modifiables, par exemple, s'il y a un peu d'hypertension artérielle, s'il y a de l'obésité, de la sédentarité, eh bien, on les corrigera. Et puis, s'il y a un risque élevé, eh bien là, on mettra en route cette thérapeutique dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ces médicaments qui sont capables de nettoyer ou d'empêcher la survenue des lésions. Voilà. Et donc, juste pour vous dire qu'il y a effectivement des actions à entreprendre, d'où l'intérêt de ces centres de prévention, je dirais, de la démence, c'est d'identifier les facteurs de risque, et puis à partir de là, on les connaît, et éventuellement de les traiter, et puis take home message, juste pour avant de nous quitter, eh bien on connaît maintenant un certain nombre de facteurs protecteurs de vieillissement cognitif, ce sur quoi d'ailleurs Bruno travaille, et Sandrine et toute son équipe, pardon. 6 facteurs, vous voyez, prendre en charge les facteurs de risque vasculaires, l'activité physique et la marche, la nutrition équilibrée, le bon état sensoriel, les activités stimulantes et l'interaction sociale. Voilà, tout ça pour éviter de rentrer dans la maladie. Donc pour résumer, vous voyez, les choses avancent considérablement dans cette maladie. C'est une vision très dynamique que nous vous présentons, Bruno et moi, et le professeur Pialou et ses collègues. C'est une vision très dynamique. Voyez, cette maladie est une source de recherche considérable avec ses biomarqueurs cérébraux, biomarqueurs sanguins maintenant, possibilité de repérer les lésions chez les sujets malades, mais aussi peut-être chez les sujets non encore malades, et la perspective thérapeutique dans l'avenir d'avoir des médicaments qui nettoient les lésions et donc qui seront peut-être, mais c'est de la science-fiction, peut-être utilisables chez des sujets encore normaux comme vous et moi. Je vous remercie.
Merci beaucoup Bruno Velas, merci beaucoup Bruno Dubois. En tout cas, ça nous ouvre beaucoup de fenêtres d'espoir. N'hésitez pas, vous le savez, hein, si vous avez envie de poser des questions à nos intervenants, à remplir vos petits papiers, là, n'hésitez pas à nous faire revenir tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec ce nettoyage des cellules là, dont vous nous avez parlé, on puisse un jour proposer des traitements, peut-être sur une durée d'un an, deux ans, que sais-je, et puis après se dire que le nettoyage, il a été assez efficace pour qu'on puisse suspendre le traitement pour toujours ou pour un temps donné? Est-ce que ça fait partie des perspectives envisageable?
C'est même la réalité aujourd'hui, puisque dans une des études qui est entreprise, qui est avec un autre médicament qui s'appelle le donanemab, il est tellement puissant à nettoyer les lésions qu'on a décidé de faire un PET amyloïde à un an et de vérifier s'il n'y a plus de lésions. Alors que le patient est toujours dans l'étude, on arrêtera le médicament, car on considère qu'il n'y a pas de raison de continuer un médicament s'il a déjà fait l'effet attendu. Donc, vous voyez, on est dans cette idée, et je ne sais pas, je vais laisser Bruno aussi peut-être intervenir sur ce point, mais on avait eu un problème avec ces médicaments en se disant qu'il va falloir les continuer tout au long de la vie. Il est possible que ce soit qu'un one-shot pendant 6 mois ou un an, qu'il faudra peut-être après reprendre 5 ans ou 6 ans après, si de nouveau il y a des lésions. Mais effectivement, on s'inscrit dans cette perspective du one-shot.
Et donc, on comprend bien qu'entre-temps, il faut tout faire pour garder la santé et ne pas surajouter des facteurs de risque qu'on est capable d'éviter.
Une vision qu'on peut avoir et un parallélisme qu'on peut faire, c'est avec le cholestérol et les pathologies cardiovasculaires. On commence à avoir du cholestérol dans le sang, puis on va avoir de l'athérome dans les vaisseaux. Puis on peut faire un accident coronarien ou un accident vasculaire cérébral. Ça ne veut pas dire, parce qu'on a de l'athérome dans les vaisseaux, qu'on va faire toujours un accident coronarien ou vasculaire cérébral. Beaucoup de personnes en ont et ne vont pas en faire. Pour l'amyloïde, c'est à peu près pareil. On commence à accumuler ce peptide amyloïde et on est à risque de faire une maladie d'Alzheimer. On ne va pas la faire à tous les coups. Il faut sans doute qu'il y ait d'autres éléments qui interviennent. Mais ça va nous ouvrir des perspectives. Comme l'a dit Bruno, je suis persuadé que d'ici 2-3 ans, ces marqueurs biologiques vont être dans le marché, c'est-à-dire avec une prise de sang, on pourra voir si quelqu'un commence à fabriquer ce peptide amyloïde. Ça ne voudra pas dire qu'il a une maladie d'Alzheimer, c'est comme quelqu'un qui fabrique trop de cholestérol. On aura sans doute alors des traitements oraux sur lesquels on va retravailler, qui permettent peut-être de faire disparaître cette production de peptide amyloïde avant qu'on ait besoin d'utiliser plus tard les anticorps monoclonaux quand on a déjà dans le sang. Ce qu'il faut savoir concernant les œdèmes vasogéniques dont a parlé Bruno Dubois et des micro-hémorragies qu'on voit, c'est qu'on en voit également dans le groupe contrôle. n'y a pas que le médicament qui provoque ça. On
en voit dans les personnes qui ne prennent pas de médicaments et qui prennent un placebo. Hein, oui, c'est de ceux-là dont vous parlez.
On en voit dans le groupe sous placebo. Et beaucoup sont asymptomatiques. Et ceux qui sont symptomatiques ne sont pas si nombreux que ça. Avec le lecanemab, ils seront bien moins nombreux que ceux qu'on a vus avec l'aducanumab.
Merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'on peut les applaudir parce que non seulement ils nous expliquent des choses très compliquées, mais en plus, ils nous les rendent vraiment accessibles. Merci pour votre pédagogie.